Le Grand Dialogue.
Sigikafoba.
Odewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halouk Mouni.
Chenni Beri.
Sigikafoba. Le Grand Dialogue.
160 morts à Ouagadougou le week-end dernier, 28 ans de démocratie pour le Mali et la grève des enseignants qui se poursuit toujours. Ces trois sujets ont marqué l'actualité de la semaine et nous allons les aborder au cours de ce forum de la presse avec deux invités, Badou Escoba du Carrefour et Mohamed Attaher Alidou. Tous les deux sont des journalistes. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette émission.
Le Grand Dialogue.
Nous allons parler d'abord d'Ouagadougou dans la région de Mopti. Plus de 160 civils ont été tués ce week-end dans cette localité. Et nous allons écouter d'abord ce reportage de Amadou Maïga sur la question.
Au moins 160 personnes ont été tuées le samedi dernier dans l'attaque contre le village d'Ouagadougou, d'après les dernières nouvelles. Ce bilan pourrait encore s'aggraver, craignent les sources locales. Un précédent bilan provisoire de 154 morts avait été annoncé ce lundi par les porte-parole du gouvernement suite à la visite du président de la République sur les lieux. Ibrahim Boubacar Keïta a promis à la population rescapée la sécurité et la paix. Il faut la sécurité ici et c'est votre mission, a déclaré le président à l'adresse du nouveau chef d'état-major, le général Abdoulaye Koulibaly, qui l'accompagnait lors de cette visite. Ce dernier a été nommé le dimanche passé suite au limogeage des principaux chefs de l'armée lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Un assaillant blessé à la cuisse gauche âgé de 32 ans a été arrêté et mis à la disposition de la justice, a annoncé la cellule de communication de la présidence dans un communiqué. Cette tuerie, semblable à celle de Koulongo au mois de janvier dernier, est la plus sanglante. Elle s'est produite en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso voisin.
Mohamed Attaher Alidou, que pensez-vous de cette attaque qui a causé 160 morts au Mali?
Merci Amadou Touré, merci pour l'invitation. Ce qui s'est passé à Ouagadougou, c'était quand même regrettable. C'est regrettable, les morts, c'était regrettable. C'est triste, hein, c'était triste. L'indignation, on a vu l'indignation sur les réseaux sociaux, toute cette tuerie-là, qu'est-ce qui a occasionné cela. Donc le pays était en deuil. Ce qui s'est passé, et c'était vraiment pas. C'est à regretter. Donc, je peux tout simplement dire que les événements, c'était des événements malheureux parce qu'après Djoro, l'attaque du camp de Djoro, c'était le massacre dans le centre du pays. Donc, le pays va mal.
D'accord. Badou Escoba, est-ce que vous pensez que cette situation, on aurait pu l'éviter?
Cette situation, on aurait pu éviter cette situation dans la mesure où l'alerte a été donnée par d'autres précédents. Il y a eu le cas de Naoudje, le cas de Danfagala, le cas de Komaga, de Kolongo. Il y a eu le cas de Kobaka, de Nantaga. Je pense que l'alerte a été suffisamment donnée. Mais le gouvernement, à ma connaissance, n'a pas anticipé. Dans la mesure où, quand il y a déjà eu de telles atrocités, il est du devoir régalien du gouvernement de prendre toutes les mesures qui sont posées pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Le président de la République, quand il se déplace pour aller à Kologo, quand il a vu les victimes, il dit qu'un détachement permanent sera mis en place, n'est-ce pas, pour surveiller toute la zone. Et apparemment, Ouagadougou, Welengara se trouve dans le même secteur. Au-delà de ces deux localités, la localité de Djombolo aussi, à 5 km de Bayangara, a été touchée et 5 civils ont été tués. Donc, c'est pour dire à quel point la situation est grave. C'est vrai, le président de la République a procédé à un réaménagement du haut commandement militaire. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que le gouvernement arrête avec cette politique des derviches tourneurs et que le gouvernement mette tout en œuvre pour sécuriser les personnes et leurs biens. Lors du conseil des ministres extraordinaires, on a parlé de la dissolution de Dana Amasagou. C'est parce qu'il y avait un vide que Youssoufou Toloba s'est engagé vraiment à créer Dana Amasagou avec d'autres personnes pour venir en aide aux populations d'Ogon qui souffrent le martyr. Et ce n'est pas seulement les populations d'Ogon qui souffrent le martyr, même les populations peules. Lorsqu'il y a eu l'attaque de Ouagadougou, on a dénombré au moins le corps de 30 Dogons. Donc ça veut dire que c'est un problème qui ne concerne pas les Dogons, c'est un problème qui ne concerne pas le peuple. Donc c'est un problème de terrorisme. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc il ne faut pas stigmatiser les ethnies. Donc en disant que le gouvernement, en disant qu'il va dissoudre Dana Amassoukou, pointe un doigt accusateur vers Dana Amassoukou. Youssouf Toloba dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit que le jour où l'État va prendre toutes ses responsabilités, le jour où l'État va sécuriser toutes les localités du centre, ce jour-là, il va déposer les armes.
Oui, donc il faut aussi le dire, hein, Badou l'a souligné, il y a l'irresponsabilité de l'État dans cette affaire. L'État malien ne s'est pas assimé, on a un État qui ne rassure pas. C'est vrai, aujourd'hui, on accuse l'armée qui ne rassure pas. Le président de la République, quand il dit à l'armée, votre rôle, c'est la sécurité et la paix, c'est vrai, il est important de rappeler ce rôle-là. Mais quand, de l'autre côté, à Moko, nous voyons des généraux fêtards dans un contexte de crise, donc c'est comme si quelque part le mal n'est pas perçu à tous les niveaux, donc les responsabilités doivent être situées. Donc moi je pense qu'il y a vraiment l'absence de l'État qui a occasionné ce qui est arrivé, c'est regrettable, et l'État est absent. Au départ c'était des petits conflits, des conflits mineurs entre agriculteurs et éleveurs peuls, Dogon agriculteurs, mais aujourd'hui avec le contexte sécuritaire, le terrorisme, et la situation a pris une autre tournure, une autre ampleur, mais l'État malien est absent de la zone. L'irresponsabilité de l'État, parce que chaque fois, c'est après les actes qu'on condamne, mais en amont, il n'y a pas de préparation, il y a un État sur le renseignement. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a pas de renseignement. La dernière fois, le président de la République, il s'adresse, le pays était en deuil, et il dit aux militaires, comme pour les menacer, il ne faut plus qu'on nous surprenne en train de prendre du thé. Moi, je pense que c'était un ratage en matière de communication, parce que le contexte était les morts, le pays était en deuil, il fallait d'abord présenter les condoléances. Et jusque-là, moi, ce qui m'a attristé, l'indignation, je l'ai dit, et c'est que le président, il ne s'est même pas adressé à sa population, il n'a pas fait un discours à la nation. 160 morts, c'est comme si c'est un non-événement pour le gouvernement malien. Donc un gouvernement doit donner de la visibilité. Donc à ce niveau aussi, il faut dire qu'on n'a pas un État qui prend en compte les aspirations de son peuple. Un État qui comprend les gémissements et les soupures de sa population. Le président Ibeka refuse, c'est le terme, il ne faut pas avoir peur de le dire, il refuse de s'adresser à son peuple et c'est regrettable. On a vu le président Ibrahim Boubacar Keïta quand il y a eu l'assassinat des journalistes français, l'affaire Charlie Hebdo, il s'est déplacé, il est parti en France, il a même versé des larmes. Quand les journalistes français ont été assassinés à Kidal, le même Ibeka était là, il était en larmes. Donc on ne comprend pas pourquoi il a des larmes quand ce sont des non-maliens, et quand ce sont des maliens, il se contente tout simplement de constater les faits. Donc ça, c'est une irresponsabilité et le président doit sortir de ça. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre, le pays est en danger, le Mali est dans l'abîme, les profondeurs de l'abîme, et tout peut arriver. Tout peut arriver et aujourd'hui, le président de la République doit comprendre que ce n'est pas ceux qui lui disent que le pays va bien, que ce sont des petits mouvements d'humeur, que ce sont des propos d'opposants. Non, ces gens-là ne lui disent pas la vérité. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le pays va mal. Le pays n'est pas gouverné. C'est regrettable. Ce qui s'est passé, aujourd'hui, on sous-traite la sécurité du pays. Et Dana Amassoukou, aujourd'hui, qui est là, qui fait, je ne sais pas, qui joue le bras armé, hein, pour une partie de la population, pour les Dogons. On est en train d'opposer les Peuls, les Dogons, c'est un faux débat, parce que les Dogons et les Peuls ont toujours vécu en symbiose, en harmonie. Aujourd'hui, c'est parce que l'État est absent, parce que l'État sous-traite sa sécurité, que ce qui est arrivé est arrivé. Et maintenant, si des mesures ne sont pas prises, le pire est à craindre. Donc, c'est pas quand on dit que Dana Amassoukou est dissous, on dissout la milice Dogon, les chasseurs Dogon, mais c'est pas une information. Il faut désarmer complètement Dana Amassoukou et aujourd'hui que la sécurité revienne vraiment à l'armée malienne. Et qu'aujourd'hui, l'armée doit avoir tous les moyens, parce qu'on n'a pas les moyens de notre orgueil, malheureusement. On n'a pas les moyens de notre orgueil. Aujourd'hui, on accuse la France à tort. On accuse la MINUSMA à tort. Mais où est, à dire, cette armée-là? Peut-être qu'on va en parler au cours du débat.
Est-ce que dissoudre est la solution? Et dissoudre également un seul mouvement armé, est-ce que c'est la solution?
Dissoudre la milice Dana Amassoukou n'est pas la solution, parce qu'il y a l'Alliance pour le salut du Sahel qui est aussi une milice peuple. Moi, je pense que l'État doit faire preuve de stratégie en disant, bon, nous allons dissoudre toutes les milices. Une milice peut jouer un grand rôle, mais encore faudrait-il que cette milice soit encadrée. On a vu en Sierra Leone, pendant la guerre civile, les camadjors chasseurs traditionnels ont efficacement épaulé l'armée gouvernementale. Mais ces chasseurs ont été bien encadrés et il n'y avait pas de question d'ethnisation. Donc c'est très très important. Bon, moi aussi je souhaite qu'on abandonne cette rhétorique qui veut qu'on accuse chaque fois l'armée malienne, que l'armée a été surprise dans son sommet. Vous savez, le terrorisme est un phénomène mondial et les terroristes mènent des attaques de façon coordonnée. Au même moment où Djoura a été attaqué, un détachement de l'armée tchadienne est surpris à Dandala, près de la localité de Gouboua, dans la zone du lac Tchad. Donc 23 soldats tchadiens y ont même trouvé la mort. Donc c'est pour vous dire que le terrorisme, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas l'armée malienne seule qui va pouvoir le combattre. Il y a les forces internationales qui sont là. Il y a la MINUSMA, il y a Barkhane, il y a la force conjointe du G5 Sahel. Et le cas de la MINUSMA m'a beaucoup sidéré, parce que l'envoyé spécial du secrétaire général Mohamed Salah Anadif, quand il a appris la nouvelle, il dit qu'immédiatement ils ont envoyé des gens pour observer, pour constater des visites, ce qui se passe. Donc ils ont mis en place une force de réaction rapide. L'aménagement, Barkhane, la force conjointe du G5 Sahel et l'armée malienne devaient anticiper. C'est-à-dire quand de telles choses se produisent, vous devez arriver à temps. Moi, je pense que vous disposez de drones, vous avez des avions de reconnaissance, des gens qui se déplacent en moto, en véhicule. Ce qui est sûr et certain, vous êtes en mesure de les voir, de les observer. Donc moi, je place et l'armée malienne et l'ensemble de la communauté internationale devant ses responsabilités. Vous avez la force conjointe du G5 Sahel a récemment mené 3 opérations, Samparga, et Tama, Kinensar, et quel a été le résultat? Ils n'ont pu capturer qu'un vieux bédouin fatigué. Donc c'est pour vous dire que pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faudrait aussi que la population joue sa partie. Il faut que la population aussi efficace.
D'accord, on va parler du rôle de la population. D'accord. Mais déjà, par rapport à cette annonce de la dissolution du mouvement d'Anna Massagoul, est-ce que c'est une annonce avec des mots seulement ou est-ce qu'on va s'attendre à la concrétisation de cette annonce?
Bon, le gouvernement dit nous allons dissoudre Anna Massagoul. Mais il faudrait que ça se concrétise sur le terrain. Vous ne pouvez pas dire à Koulouba, bon, nous allons dissoudre Anna Massagoul comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut inciter Anna Massagoul à déposer les armes, prendre des mesures qui puissent permettre à Anna Massagoul de déposer les armes. Au début du débat, je l'ai rappelé, Youssouf Talaba a été clair. Il dit que tant que l'État ne joue pas son rôle régalier de la sécurisation des personnes de leurs biens au centre, et ils vont continuer à détenir les armes. Le jour où ils vont estimer que l'armée malienne a été redéployée massivement pour assurer la sécurité de toutes les personnes de leurs biens, pas question de Peul, pas question de Dogon, ce jour-là vraiment, et ils vont déposer les armes. Parce qu'ils ne peuvent pas déposer les armes et se faire massacrer. Parce que s'ils déposent les armes aujourd'hui, et demain qu'on vienne les massacrer, qui va
justement, en justement, s'ils déposent les armes et que les autres mouvements restent toujours armés, est-ce que le problème est résolu?
Le problème n'est pas résolu. Justement, c'est ça le fond du problème. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Il faut dire la vérité. Il faut remuer le couteau dans la plaie. Il faut dire la vérité. Si on doit désarmer Anna Massagoul, qu'on désarme toutes les autres milices d'autodéfense. Parce que si on ne désarme pas ces milices, on risque d'aller vers la somalisation, voire la libanisation du Mali. Si chaque ethnie possède une milice, il faut voir le résultat que ça va donner. En 97, pendant la guerre civile du Congo, on a vu ces histoires de milices et ninja de Bernard Correla, les milices Kobara de Sassou Nguesso, les ministres Zulu de Pascal Lisba, quel a été le résultat? Mais le Congo a explosé, ça a donné lieu à une sanglante guerre civile, que Dieu nous en garde. Moi, je pense qu'à présent, l'État doit s'assumer, l'État doit prendre ses responsabilités pour que ce qui est arrivé à Ouagadougou n'arrive plus. Parce que ce n'est pas la première fois. J'ai dit qu'il y a eu d'autres précédents. Donc, Ouagadougou ne devait pas arriver. Et si Ouagadougou est arrivé, c'est dû à la faute d'abord de nos autorités, c'est la faute de l'ensemble de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, elle est présente au Mali à travers l'AMINUSMA, à travers le Barkhane, à travers la force conjointe du G5 Sahel. Si la communauté internationale échoue à combattre le terrorisme au Mali, ce serait un échec mondial.
Si on désarme tous les mouvements armés aujourd'hui, est-ce que l'État, l'armée malienne, a la capacité de pouvoir sécuriser toutes ces zones-là, sécurisées par ces mouvements?
Oui, Mamadou Touré, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. C'est vrai, Badou fait parler sa fibre patriotique. Aujourd'hui, l'armée malienne n'a pas les moyens. Quoi qu'on dise, l'armée malienne n'a pas les moyens de sécuriser ces zones-là. Pourquoi il y a ces milices? Moi, j'ai parlé de l'absence de l'État, de l'irresponsabilité même de l'État. Badou dit que les milices peuvent, si elles sont encadrées, ça peut être une solution. Non, une milice n'a jamais été une solution. quand on fait un peu, on revisite un peu l'histoire de l'Afrique, partout où il y a eu des milices, ça a conduit à des départs des régimes. Modibo, Thomas Sankara, ce sont les milices qui ont fait partie de ces régimes-là. Donc la milice n'a jamais été une solution, parce que les milices n'ont pas de formation. Donc quand on a une arme et qu'on n'a pas de formation, comme le dit l'autre, on est un criminel en puissance. Donc aujourd'hui, ces milices-là ne doivent pas exister, parce que tout simplement, ces milices existent parce que l'armée a été incapable de sécuriser les populations. Donc aujourd'hui, si on a une armée capable, est-ce qu'on aurait besoin de Barkhane? Est-ce qu'on aurait besoin de la MINUSMA? Pourquoi la MINUSMA est venue? C'est parce que l'armée malienne a été sur le théâtre d'opération, l'armée a été vaincue. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Si aujourd'hui on a un accord, c'est parce qu'il y a un contexte. On est parti en guerre et le Mali a perdu la guerre. C'est ça aussi la triste réalité. Barkhane, le MINUSMA sont là parce que tout simplement, sur le terrain, le Mali, on a perdu la guerre. Donc on était contraint de faire un accord. Donc aujourd'hui, Amadou, pour ne pas être dans la langue de bois, l'armée malienne n'a pas les moyens de sécuriser les zones, n'a pas les moyens de sécuriser les populations. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas les moyens de notre orgueil. Parce que tout simplement, les Maliens, quand ils parlent, ils disent souvent, on n'a qu'à donner les moyens à l'État, on n'a qu'à les moyens à l'armée, on n'a qu'à donner carte blanche à l'armée pour qu'elle finisse une bonne fois pour toutes avec cette situation. Mais malheureusement, encore une fois, l'armée n'a pas les hommes pour ça. Jusque-là, parce que l'armée a été déplumée. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. On n'a pas cette armée qui a fait la fierté dans le temps.
Vous dites que l'armée a sous-traité la sécurité.
Non,
avec qui?
L'État malien. Mm-hmm. L'État malien a sous-traité la sécurité avec les milices. Mm. Aujourd'hui, quand on dit les milices doivent, on doit dissoudre toutes les milices. Donc ça veut dire que Gatia, même qui est pro-gouvernemental, on doit dissoudre toutes ces milices-là. Ce n'est pas seulement Dana Amassogou. Donc l'État ne doit pas sous-traiter sa sécurité. On est dans un État incapable, un État failli. Donc aujourd'hui, c'est la porte ouverte vraiment à des milices de toutes sortes. Parce que la population s'est dit qu'on ne peut plus faire confiance en l'État et il faut s'armer, il faut se défendre par tous les moyens. D'où la création et la présence de ces milices-là. Donc c'est la faute et la responsabilité de l'État. Donc, mais les milices, encore une fois, ne sont pas une solution pour la sécurisation des villes.
D'accord. Comme solution, vous proposiez que la population également fasse quelque chose, comme quoi?
Il faut que la population collabore efficacement avec les forces de défense et de sécurité. Il faut que la population les informe sur les agissements des suspects. Sans la population, l'armée ne peut pas venir à bout du terrorisme. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère par rapport à certains propos. Et le président de la République, quand il y a eu l'attaque de Nampala, quand il est arrivé à Ségou, il a lancé un cri de détresse. Il a tiré sur la sonnette d'alarme. Il a dit que le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre. Il faut que les amis du Mali comprennent que le Mali est un pays en guerre. Donc il faut qu'on lève l'embargo sur les armes à destination du Mali. Le problème, c'est que le Mali est sous embargo. Beaucoup ne le savent pas. Et ça, c'est un problème réel. Nous sommes un État souverain. Nous avons droit à nous défendre. Le Mali a le devoir de se défendre. Le gouvernement a le devoir sacré de défendre l'ensemble du peuple malien. Et je pense que certains sont en train d'utiliser la crise comme fonds de commerce. Or, quand de tels actes se passent, il faut qu'on fasse bloc derrière le président de la République qui est le commandant en chef des armées. Il faut qu'il soit soutenu. Moi, je ne parle pas en politicien, je suis journaliste. Il faut que nous le soutenions. Et au nom des valeurs sacro-saintes de la République. Parce que la situation est telle que ce n'est pas un problème d'Ibeka, ce n'est pas un problème de Soumaïl Boué, mais c'est un problème, c'est une question de souveraineté nationale. Il faut un sursaut national. Je l'ai toujours dit, la grande guerre contre le patriotisme, la grande guerre patriotique contre le terrorisme ne peut être gagnée que si l'ensemble des forces vives de la nation se mobilisent. Ça, c'est clair. Dans l'histoire de l'humanité, dans tous les pays où il y a eu de telles difficultés, c'est l'ensemble de la population qui s'est mobilisée. Donc, il faut une mobilisation générale pour que nous puissions circonscrire le phénomène. Le 11 janvier 2013, à la veille de l'opération Serval, John Kounda l'a rappelé. Il a dit que chaque Malien est un soldat. Je crois que ça, c'est une réalité.
Oui, chaque Malien est un soldat. Amadou, permettez-moi de rebondir un peu sur ces propos-là. Chaque Malien est un soldat. C'est vrai, ce sont des propos qu'on donne. Mais aujourd'hui, la situation, c'est que le pays va mal. Il faut avoir le courage de le dire pour qu'on puisse citer des responsabilités. Sinon, c'est bonjour les dégâts. Le président de la République, on peut le soutenir, oui, parce que quand le pays est menacé, c'est l'ensemble du pays qui est touché. Mais un président de la République incapable de s'adresser à sa nation, quand il y a 100 morts, vous pensez qu'on peut l'aider? Badou, je vous pose la question, on ne peut pas l'aider parce que lui-même, il ne cède pas. Quand il y a 100 et quelques morts, c'est que le pays est dans l'abîme. Le président de la République doit avoir le courage de s'adresser à la nation. et de décréter un deuil. Je vois que c'est tout dernièrement qu'il l'a fait. Il l'a même fait sous la contrainte et puis la pression des Maliens qui sont pratiquement indignés. On a vu l'indignation même de certains Maliens de la diaspora, des Africains. Mais au Mali, on a l'impression que c'est un non-événement, sans et quelques morts. Donc moi, je pense que le président de la République, dans ce contexte-là, on ne peut pas l'aider. Le pays est en crise, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui nous servent des talismans comme ça. Il faut aider le président, le Mali est en crise. Mais le président lui-même, il faudrait qu'il comprenne que le pays est en crise. Le pays est en crise depuis 2012.
D'accord. Et quelques jours après l'attaque d'Ogossagou, il y a des groupes armés toujours dans la région de Mopti qui ont lancé un ultimatum à un village et trois hameaux pour qu'ils quittent leur localité. On va écouter le reportage de Imirana Kiloumaïga sur la question.
Les anciens qui ont lancé cet ultimatum seraient venus du Burkina Faso. Des sources locales, ils auraient encerclé les hameaux de Kéré, Goura, Ganga et le village de Chégué dans le cercle de Koro. Aussitôt interpellés par les chefs de localité concernés, les responsables communaux ont informé les autorités militaire du cercle. Issa Sagara, maire adjoint de Koro.
Et moi, j'ai saisi l'administration et l'autorité militaire pour leur donner l'information qu'il y a des unités rudement armées qui ont encerclé les hameaux de Kéré, Ganga, Goura, des villages officiels. Il y a Ségué. On demande à ses habitants de quitter dans 72 heures. Un poste de commandement qui est là, ils ont été saisis. La gendarmerie a été saisie avec l'escadron. Ils sont pris de la disposition pour aller sécuriser cette population qui est en détresse au niveau de la frontière entre la commune de Koro et la commune de Kain et Thiou.
En attendant, les autorités communales annoncent que les populations concernées ont commencé ce matin à abandonner les lieux. Les populations de la ville de Koro se disent inquiètes pour leur sécurité. Elles affirment avoir été livrées à leur propre sort.
Nous vivons ici dans l'inquiétude totale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est normal, c'est compréhensible à ce que certains villages aussi fuient leur zone pour ne pas perdre leur vie.
Vraiment, on n'est pas en sécurité à Koro ici.
La situation sécuritaire va de pire en pire dans notre région. Et jusque-là, aucune disposition militaire n'est prise encore, même avec l'ultimatum rendu à ces villages-là.
C'est ce jeudi que l'ultimatum de 72 heures arrive à terme. Et ces menaces interviennent quelques jours après l'attaque du village d'Ogossagou qui a occasionné la mort de 160 civils dans la même région. À ce stade, la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, dit ne pas être au courant de cet ultimatum.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le centre du Mali? C'est la question qui se pose aujourd'hui, Ebadou.
Non, dans le centre du Mali, on est en train d'aller vers un génocide à la rwandaise. Que Dieu nous en garde. Nous avons tous écouté ce qui a été dit. Donc, l'État a été suffisamment informé, l'alerte a été donnée. Si ces localités sont attaquées, s'il y a des morts, c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de l'aménagement, c'est la responsabilité de Barkhane, c'est la responsabilité de la force conjointe du G5 Sahel. Donc, moi, je pense qu'il urge de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour sécuriser ces villages. Parce que si on ne sécurise pas ces villages, il y aura même la famine. Parce qu'actuellement, on ne parvient plus à cultiver dans le centre, on ne parvient plus à élever le bétail. Les populations ne peuvent plus se déplacer pour aller aux foires hebdomadaires. Donc ça veut dire que la situation est très très critique. À présent, l'État doit prendre toutes les mesures. Il ne s'agit pas de s'asseoir à Pomoko, dire que nous allons faire ce que nous allons. Il faut aller sur le terrain, constater, de visiter ce qui se passe et réagir en conséquence. Quand il y a eu l'attaque de Ogossagou, nous on a pensé à un moment donné qu'on allait voir nos hélicoptères dans les ciels, mais le carnage a eu lieu, on n'a vu aucun hélicoptère de l'armée malienne. Or, on a fait de la publicité autour de ces hélicoptères, autour de ces super Ticanos. Donc vraiment, moi, je pense que l'État arrête avec cette politique de publicité pour dire qu'on est en train d'armer notre armée nationale qui a ceci, qui a cela. Donc vraiment, que l'État prenne ses responsabilités, que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Parce que le carnage ne peut pas continuer. Parce que qu'est-ce qui amène les guerres civiles? Parce que quand vous attaquez chaque fois à une ethnie, cette ethnie est obligée de se défendre. Vous prenez la zone du Massina aujourd'hui. Il y a des milices, il y a des Donzo Bambara qui sécurisent leur population. Donc quand on en arrive là, vraiment, que Dieu nous en garde, moi je pense que l'État a été suffisamment alerté, la communauté internationale a été suffisamment alertée. Je pense que qu'on ne nous amène pas à la période où les Khmer Rouges ont massacré le peuple cambodgien. Nous ne voulons pas qu'il y ait des Pol Pot chez nous. Et je tiens à rappeler à ceux qui sont en train de commettre ces actes, les Yad et autres, les impérialistes, ils en disent ton corps de miel.
Après, vous pensez que ce sont les terroristes qui sont derrière ces ultimatums et attaques?
Je pense que ce sont les terroristes qui sont derrière tout ça. Leur objectif est clair, c'est de mettre à dos nos populations pour atteindre leurs objectifs, c'est clair.
D'accord. Voilà. Et jusqu'hier, aucune réaction des autorités et la direction de l'information et des relations publiques de l'armée dit ne pas être au courant de cet ultimatum. Alors la question qui se pose, c'est à quoi servent les services de renseignement au Mali?
Oui, les services de renseignement au Mali servent, leur rôle c'est juste pour traquer souvent quelques opposants, c'est pour mettre hors d'état de nuire un journaliste qui dérange, mais jamais pour prévenir peut-être des attentats dans nos pays. Souvent on est surpris si c'est la France ou les États-Unis qui signalent des possibles attentats dans nos pays, mais nos services de renseignement, on ne sait pas ce qu'ils font. La sécurité du Mali, on ne sait pas ce qu'elle fait. Certainement, peut-être qu'elle est bien spécialisée dans la fête des anniversaires, certainement, alors que le pays est en crise. Donc maintenant, quand il s'agit de prévenir et voir les conflits, nos services de renseignement ne sont pas là. La lutte contre le terrorisme, c'est justement le renseignement. Sur le renseignement, on doit avoir un service de renseignement très alerte pour que les forces puissent être opérationnelles sur le terrain. Donc, encore une fois, je reviens à l'irresponsabilité de l'État. On a vraiment un État qui n'est pas responsable dans cette situation-là. Donc, ce qui est arrivé est regrettable et déplorable.
D'accord. Faut-il renforcer les services de renseignement au Mali?
Il faut renforcer les services de renseignement. Il faut recruter ceux qui sont susceptibles de faire le boulot. Il faut recruter des personnes discrètes. Vous savez, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Donc l'ennemi peut surgir de nulle part à tout moment. Et il faudrait aussi une collaboration franche de la population. Mais le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, c'est que souvent, notre armée nationale aussi se comporte dans certaines localités en force d'occupation. C'est pas bon. Donc quand vous comportez en force d'occupation, la population a peur de vous apprécier pour vous donner certaines informations. Il faut que l'armée aussi ouvre les vannes pour que la population puisse aller vers elle et lui donner les informations à temps réel. Sans la collaboration de la population, on a beau avoir des services de renseignement efficaces, je crois que le travail ne sera pas achevé. Il faut impérativement que nous collaborions tous avec nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir circonscrire ces phénomènes. Je l'ai rappelé, c'est une guerre contre le terrorisme, c'est un phénomène mondial qui ne concerne pas seulement que le Mali. Il y a seulement à la frontière avec le Mali, du côté burkinabé, 4 gendarmes ont été tués et le maire de Markori dans la province de l'Oudalan aussi a été enlevé au Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire que le terrorisme est en train de gagner du terrain dans la zone Afrique de l'Ouest. Et c'est l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest qui doivent se mobiliser, l'ensemble de la communauté internationale, pour soutenir les efforts du Mali pour que nous puissions venir à bout de cette gangrène.
D'accord. Deuxième thème de ce forum de la presse, 26 mars 1991, 26 mars 2019. 28 ans de démocratie au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed, la démocratie est acquise au Mali?
Oui, la démocratie au Mali, parce que votre question, elle est quand même large. Est-ce que la démocratie est une réalité au Mali? Aujourd'hui, je peux dire que la démocratie malienne, c'est un mirage. On est dans un semblant de démocratie. 28 ans après, est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Peut-être qu'on rentrera dans les détails pour vous montrer clairement que cette démocratie malienne, c'est un échec. À tous les niveaux, c'est un échec. C'est-à-dire que, mais maintenant, les gens mesurent un peu cette démocratie par rapport à la liberté d'expression. La liberté d'expression, les journalistes parlent, les gens écrivent. Non, c'est pas ça la liberté, la démocratie. Il y a les droits sociaux, il y a les droits économiques. Aujourd'hui, la pauvreté, c'est une violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, le logement, c'est un luxe pour la majorité des Maliens. Et au même moment, la corruption qui gangrène l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs, c'est dans cette démocratie malienne. Des fonctionnaires milliardaires, c'est dans cette démocratie-là. Donc aujourd'hui, cette démocratie malienne, c'est vraiment une démocratie, c'est un mirage. Moi, je pense qu'on n'est pas dans une vraie démocratie. On n'est pas dans une vraie démocratie.
Badou, un des objectifs de la révolution de 91, c'était d'avoir une meilleure gouvernance, un meilleur cadre de vie. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui?
Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. À l'époque, c'était le parti unique. Nos pseudo-démocrates ont estimé que le parti unique n'est pas la solution et que le président Moussa Traoré, à l'époque, a détourné 600 milliards. Il a fait ceci, cela. Mais nous nous sommes rendus compte après qu'ils sont pires que Moussa. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas peur de dire les mots. Ces gens, on doit les conduire à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Tous les mots du Mali aujourd'hui,
les gens qui ont gouverné de 92 à aujourd'hui.
À nos jours, tous les mots du Mali, c'est eux. Tous les problèmes du Mali, c'est eux. C'est eux qui ont créé cette tragédie que nous connaissons aujourd'hui, avec à la clé la création des quartiers de la discrimination, des quartiers de l'apartheid. Amdallah Assi, c'est eux qui ont amené la spéculation foncière. Avant, la terre ne coûtait rien. Mais depuis que ces soi-disant démocrates sont venus, le problème foncier s'est aggravé. Il y a eu une disparité sociale criante. Alors qu'en 91, quand ils menaient leur lutte, ils ont dit que c'est pour amener l'équité, c'est pour amener l'égalité, c'est pour que chaque Malien mange à sa faim, c'est pour que chaque Malien puisse dormir tranquille. Ici, aujourd'hui, il y a combien de Maliens qui sont dehors? Il y a combien de Maliens qui souffrent? Et ces démocrates se sont là coulés douces, ils n'ont pensé qu'à leur type digestif. Donc, ils ont rempli leur type digestif et au détriment de l'ensemble du peuple malien. Je crois que le système n'est pas mal en soi. C'est pas un mal en soi, mais ce sont les acteurs de cette démocratie qui ont gâché la fête. Ils ont tout gâté. Ils sont venus, ils ont semé le chaos.
Certains pensent qu'ils ont hypothéqué le pouvoir parce que ce sont ces acteurs qui se sont succédés depuis 92 jusqu'à aujourd'hui.
Ils ont hypothéqué le pouvoir, ils ont vendu le pouvoir, ils ont vendu la jeunesse. Tu prends la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse malienne, c'est une jeunesse qui est en déperdition. La jeunesse ne pense qu'à l'argent. Et les jeunes de la démocratie aujourd'hui sont ambitieux à tel point qu'ils oublient même le Mali, ce qui est extrêmement grave. C'est très grave. Les jeunes aujourd'hui ne pensent qu'à l'argent, ne pensent qu'à chanter et danser. Et vous pensez que ça va construire le pays? Donc on n'a pas cultivé chez les jeunes l'esprit de patriotisme. C'est soit des gens démocrates, on fait croire aux jeunes que quand tu te comprends en démocrate, quand tu fais certaines choses, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est l'appât du gain facile qu'ils ont cultivé chez nous, les jeunes. Et ça, c'est un drame. Ils n'ont pas appris aux jeunes à travailler. Ils n'ont pas créé chez les jeunes le sentiment patriotique, l'amour de la patrie. Non, non, non. Ils ont dit aux jeunes, vraiment, aujourd'hui, il est facile d'être riche, mais pourvu que nous soyons démocrates, pourvu que nous soyons dans un parti politique. Et c'est le cas, malheureusement. Il y a des jeunes chevronnés, des jeunes cultivés qui sont dans les placards parce qu'ils ont peur de cette démocratie. Ils estiment que dès qu'ils entrent dans le système démocratique, ils vont perdre certaines valeurs. Aujourd'hui, il faut que nous nous réveillions pour cultiver la méritocratie. Et la méritocratie manque aujourd'hui au Mali. Des gens qui n'en valent pas la peine occupent des postes de responsabilité au détriment de ceux qui le méritent. Et c'est ça le fond du problème. Et même si vous prenez aujourd'hui l'armée, il y a beaucoup de frustration au Mali, au sein de l'armée, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont des généraux qui ne le méritent pas. Il y a certains de leurs papas qui sont encore colonel-major dans l'armée. Donc il faut corriger ces disparités-là si nous voulons que notre démocratie soit une vraie démocratie.
L'éducation, elle est devenue quoi aujourd'hui?
Oui, avant de revenir à l'éducation, je dirais que Badou est très amer contre cette démocratie. Voilà, c'est vrai, il y a quelques acquis à ça et là, il ne faut pas cracher aussi sur les acquis, sinon on va dire que sur ce plateau, nous sommes des anticonformistes, alors que ce n'est pas, c'est pas vrai. Et il y a quelques acquis ça et là, mais comme je le dis, la liberté d'expression seulement. Parce que quand les gens parlent de démocratie, le plus souvent, ça revient. On dit, non, aujourd'hui, vous êtes libre parce que le régime de Moussa est tombé, vous pouvez parler comme... Alors qu'hier, ce n'était pas possible. Mais les gens oublient que c'est sous Moussa qu'il y a eu Diamana, il y a eu les Échos. C'était le premier journal, c'était depuis Moussa, donc l'ouverture. Voilà, donc ça veut dire tout simplement que si ça c'est un acquis, et Moussa serait un champion de la démocratie. Mais maintenant, si on doit mesurer la démocratie, parce que comme on va parler de l'héritage des acteurs du mouvement démocratique. Badou l'a dit, moi je pense que, sans risque de me tromper, je pense que les acteurs du mouvement démocratique ont conduit le pays à la catastrophe. Ce sont les mêmes acteurs, comme vous l'avez dit, qui sont succédés de 92 jusqu'à aujourd'hui. Mais pour quel résultat? L'école, quand on prend l'école est malade. On court vers une année blanche. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer un peu comment on a réussi à tuer le système éducatif malien. Aujourd'hui, le système éducatif malien est en lambeaux. L'école s'est effondrée de façon lamentable. Moi, à mes heures perdues, je donne des cours de communication dans certaines écoles. On est à l'université, nous sommes à l'université et un matin, je trouve une fille qui n'a pas l'habitude d'être à l'heure. Je lui dis, mais mademoiselle, vous êtes assez matinale ce matin. La fille me regarde, elle ne comprend pas. Je dis, vous êtes assez matinale. Et elle me dit, c'est-à-dire. Donc moi, je n'ai pas voulu lâcher le mot, je regarde, je dis que vous êtes assez matinale. J'ai compris qu'elle n'a pas compris. Et entre-temps, je lui demande, dans matinale, vous avez quel mot? La fille me répond, dans matinale, on a maths. Donc, vous comprenez tout de suite que... C'est-à-dire qu'on a, tué, on a assassiné. On a assassiné l'école malienne. Donc, ça, ce sont les résultats, ce sont l'échec de ces hommes-là. Parce que l'école malienne, quand même, c'était une référence dans la sous-région. Il suffisait tout simplement de dire que vous êtes malien pour que les portes des universités étrangères s'ouvrent à vous. Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous avez même honte de dire dans certains lieux que vous êtes malien, parce que tout simplement, on a l'impression qu'une fois que vous dites que vous êtes malien, c'est que vous n'avez pas le niveau. Il n'est même pas rare, souvent, quand vous parlez un peu français, même si vous avez un niveau acceptable, il n'est pas rare qu'entre nous, on se demande est-ce que tu as fait toutes tes études au Mali. C'est comme si, quand on est au Mali, on n'a pas parlé bien français. Donc ça, le système éducatif malien, l'héritage, c'est aussi le mouvement démocratique. Hein. Il faut le dire, même avec Moussa, on avait une école encore qui marche. L'armée. Il y a un homme politique qui m'a confié une fois que lors d'un séjour en prison, un militaire lui dit qu'on n'a pas une armée, mais on a une armoire. Aujourd'hui, l'armée est déplumée. L'armée malienne est déplumée. Vous voyez des généraux qui ne peuvent pas lire une carte. Vous pouvez voir aussi des lieutenants qui ne savent pas lire une carte ou qui ne savent pas faire un plan de guerre. Ça, c'est l'armée malienne. Donc ça aussi, qui a déplumé l'armée malienne? Ça, c'est aussi la question. Il faut qu'on pose cette question-là. Qui a déplumé l'armée malienne? L'armée malienne était une armée de référence. Et le peuple malien pensait qu'elle a encore cette armée-là. Mais malheureusement, l'armée a été déplumée par ces mêmes acteurs du mouvement démocratique. Parce qu'ils pensaient, ces acteurs pensaient dans leur fond intérieur que la force de Moussa, c'est l'armée. Donc il fallait dissoudre, il fallait casser l'armée pour ne pas avoir de coup d'État. Donc c'est comme ça que l'armée malienne a été déplumée. La justice aujourd'hui, on a une justice à deux vitesses. Une justice corrompue jusqu'à la moelle des os. Une justice corrompue. Est-ce qu'on peut... Parce que dans la gouvernance, il faut, le rôle de la justice est primordial. Mais est-ce qu'on peut attendre d'une justice déclarée elle-même corrompue de lutter contre la corruption? Non. Aujourd'hui, la justice malienne, c'est une justice à double vitesse. Elle consacre l'impunité pour les riches et la prison pour les pauvres. Donc ça aussi, c'est un héritage du mouvement démocratique. La corruption qui est aujourd'hui devenue une gangrène. La corruption aujourd'hui est même démocratisée. Au Mali, quand vous ne voulez pas, on vous donne un poste, un jeune qui a un poste 5 ans après. Vous allez voir, 5 ans, 2 ans ou 3 ans après, il construit une villa. Il construit des villas et après on dit non, il est Douaoudé. C'est comme ça qu'on... Par exemple, les gens
Il est béni.
Donc ceux qui jouent avec les deniers publics sont considérés comme des bénis. Si vous êtes à un poste et que vous êtes intègre et que vous n'arrivez pas à vous réaliser parce que vous avez l'amour du pays, vous avez le patriotisme et vous êtes intègre, mais c'est votre entourage immédiat qui dira aussi que vous n'êtes pas un enfant béni, ni t'es douaoudin. Donc maintenant, pour finir un peu, pour schématiser un peu, l'imaginaire malien dit qu'avec la première république de Modibo Keïta, les Maliens avaient honte de voler. Avec la deuxième république, on dit que ils ont peur de voler. Et maintenant, avec la troisième république, ils n'ont ni honte ni peur de voler. Tout le monde est devenu voleur.
Voler est devenu un art.
C'est devenu, oui, c'est aujourd'hui, il faut voler parce que c'est démocratisé en réalité. C'est ça les acquis de la démocratie.
Le vol a été institutionnalisé. Voilà. Le vol a été institutionnalisé.
Donc il faudrait pour finir, il faudrait faire l'état des lieux. Il faudrait faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui a marché? Parce que chaque fois on vient, on part des gerbes de fleurs, c'est pas ça. Il faut interroger notre histoire. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Donc il faut faire l'état des lieux. Si un État qui n'a pas le courage de regarder son avenir, qui n'a pas le courage de regarder son histoire, est un État qui va droit dans le mur, on doit s'interroger. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et maintenant, de prendre, c'est-à-dire une nouvelle direction. Mais aujourd'hui, je peux dire que l'espoir est permis. Aujourd'hui, on a une génération qui commence à comprendre les choses, qui a compris que cette génération-là, elle a montré ses limites. Elle a montré ses limites sur tous les plans.
D'accord, donc aujourd'hui, l'espoir est permis. Est-ce que vous êtes optimiste aussi?
Moi, je suis très, très pessimiste. Et je reviens sur le cas de l'armée dont il a parlé. Aujourd'hui, l'armée malienne est devenue une armée mexicaine. Il y a tellement de généraux, tellement de colonels. Il y a plus d'officiers que de sous-officiers et d'hommes de rang. Et ça, c'est une armée mexicaine. Ça, c'est grave. Je pense qu'il faut revenir à la méritocratie. Et comme l'a rappelé mon confrère, les Alpha Omar Konadé, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont démantelé l'outil de défense par crainte de coup d'État. Alpha a dit ici que le Mali n'a pas besoin d'une armée forte, mais le Mali a besoin de forces de sécurité. Oubliant que nous sommes un pays qui est menacé de partition. Dans le monde, tous les pays qui sont menacés de séparatisme ont des armées fortes et bien entraînées. Je prends le cas spécifique de l'éducation. Mais depuis que le Mali a pris son indépendance, c'est des enseignants qui dirigent. de 92 à nos jours, vous prenez la démocratie, pratiquement ils sont tous des anciens. Alpha est enseignant, ATT est enseignant, Ibeka est un professeur, il a enseigné à l'université Paris-Tolbiac. Donc c'est les anciens qui ont pris le relais de 92 jusqu'à nos jours. Pour quels résultats, si vous prenez le cas spécifique de l'éducation, l'éducation a été bradée. Il y a deux écoles. Il y a l'école des nantis, il y a l'école des pauvres. Ça n'existait pas au Mali. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là sont pires que tout ce que vous pouvez imaginer. Ces gens-là doivent passer à l'échafaud.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pires que les terroristes?
Ils sont pires que les terroristes. Et Mamadou Senghor Koulibaly l'a rappelé lors du débat sur la lutte contre la corruption. Il dit qu'il y a 1600 fonctionnaires qui prennent l'ensemble de l'économie malienne en otage. Et je pense que quand un opérateur économique fait des têtes déclarations, l'État doit frapper dans la fourmilière pour arrêter tous les cadres verrés et les mettre à la disposition de la justice. Il est temps que la justice sévisse. Vous avez parlé de la justice. La justice aussi, c'est un autre mal de notre société. Parce que dans une bonne démocratie, il faut une bonne justice, il faut une éducation, il faut un système de santé. Rien de tout cela n'existe dans ce pays-là.
D'accord. Il nous reste 3 minutes, juste le temps d'aborder cette grève des enseignants qui se poursuit encore. Un mouvement de 23 jours est annoncé à partir du 15 avril. Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui pour l'éducation, pour sauver l'éducation?
Rapidement, il y a une solution. Je pense que l'ensemble des acteurs de l'éducation, les parents, le gouvernement et les anciens doivent mettre de l'eau dans leurs vins. Les anciens doivent comprendre que l'enseignement est un métier de sacerdoce, c'est un métier noble. Il est du devoir de l'État de mettre les enseignants dans toutes les conditions. Mais il faut que les anciens aussi comprennent que la situation actuelle du Mali est extrêmement difficile. Et c'est vrai, l'État a fait des rétentions de salaires. Je pense que l'État n'a qu'à faire en sorte que les anciens puissent entrer dans leurs droits. Ce serait la base de la discussion. Les anciens disent qu'ils sont ouverts au dialogue. Mais c'est l'État qui est en train de fermer les portes du dialogue. Moi, je pense qu'il faut ouvrir les portes du dialogue. Il faut discuter, échanger, jouer carte sur sable, dire aux anciens, c'est ce que nous pouvons faire tout de suite. Nous ne pouvons pas faire ça. Et dire ça devant témoins pour que nos enfants puissent aller à l'école. Sinon, c'est extrêmement grave. Et le problème de l'école aussi ne touche pas seulement que le Mali. Hier, j'ai dans Jeune Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a les mêmes problèmes. Beaucoup d'Ivoiriens se plaignent aujourd'hui.
Donc c'est général. Est-ce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'année blanche, même si l'école est sauvée, est-ce que les enfants pourront épuiser l'année scolaire, les cours?
Oui, Mamadou Touré, c'est regrettable ce qui est arrivé. Encore une fois, c'est encore de la responsabilité de l'État. Un État doit répondre à la veuve et à l'orphelin. Et aujourd'hui, les revendications des enseignants, ce sont des revendications légitimes, ce sont même des revendications raisonnables. Parce que l'éducation, c'est le socle du développement. Aujourd'hui, les enseignants sont dans des conditions infrahumaines. Mais quand ils parlent, quand les enseignants parlent de conditions, de meilleures conditions, l'État, il y a même une sorte d'arrogance dans la réponse. Quand on dit on n'a pas les moyens, non. On a les moyens quand il s'agit de donner 50 millions à des religieux qui n'ont rien demandé. Mais quand des enseignants demandent, on dit que non, les caisses de l'État sont vides. Donc moi, je pense que c'est encore une fois un État qui ne comprend pas l'enjeu de l'éducation. Donc aujourd'hui, mais ce qui est aussi regrettable, c'est qu'on cherche à sauver uniquement les années scolaires, mais pas l'école. C'est l'école qui est malade. Il ne sert à rien de sauver une année de 3-2 mois, mais c'est l'école qui est malade. Il faut encore refonder cette école-là puisqu'elle puisse se retrouver ses lettres de noblesse qui ont fait la grandeur de ce
pays-là. De sauver l'école dans ce contexte de crise?
C'est pas facile, ce n'est pas facile. Il faut tout refonder parce qu'aujourd'hui, même si on sauve l'année blanche, l'école reste malade. L'école reste malade.
Est-ce donc possible maintenant de sauver l'école?
On peut sauver l'école. Je l'ai rappelé ici, il faut que l'État prenne ses responsabilités, l'État s'assume et donner aux enseignants le minimum. Ce que les anciens demandent, ce n'est pas beaucoup. Ils demandent des primes de logement, des primes de documentation. Par rapport aux primes de logement, l'État dit qu'il n'est même pas question d'en discuter. Moi, je pense qu'il faut que les différents acteurs se ressaisissent et comprennent qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, qu'ils sachent que le développement de tout pays dépend d'un système éducatif.
Et qu'ils trouvent une solution à ce problème. Merci à nos invités, Mohamed Attaher Alidou et Badou Escoba. C'est la fin de ce forum de la presse. À la présentation, Mohamadou Touré, mise en onde assurée par Mamadi Keïta, la régie vidéo Mamadou Ouattara. À la semaine prochaine pour un prochain numéro du forum de la presse de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenibiri.
Le Grand Dialogue.